Vous écoutez Lesbo Son avec Nathalie Dipalma sur les ondes de CKUT 96.3 FM. Bonsoir et merci d'être à l'écoute. Nous avons le plaisir de recevoir Claire Pommet, alias Pomme, auteure-compositrice-interprète. Bonsoir Pomme, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir.
La musique était très présente dans ta vie depuis que tu es toute petite. À 6 ans déjà, tu apprends le solfège. À 7 ans, tu fais partie d'un chœur d'enfants et tu découvres le violoncelle à 8 ans. Est-ce que c'est toi qui demandais à tes parents de faire de la musique à cet âge-là ou ça vient d'eux?
C'est pas tout à fait moi, c'était comme une tradition dans la famille que mes parents ont instaurée avec tous mes frères et sœurs. On est 4 et moi je suis la deuxième, donc il y avait déjà eu ma grande sœur avant qui avait suivi ce processus de solfège autour de 6-7 ans et puis d'un premier instrument quelques années après. Et donc c'était, je pense, un mélange d'envie de mes parents et aussi de... Pour moi, c'était la normalité, en fait, de faire ça, parce que j'avais vu ma sœur le faire aussi avant. Et voilà, on a toujours beaucoup écouté de musique dans la famille. Mes parents, ils ne sont pas du tout musiciens. Mais voilà, ils avaient envie de, qu'on ait ce bagage-là pour plus tard, après qu'on puisse avoir le choix de s'en servir ou pas. Mais donc, au début, c'était vraiment plus familial. Et puis, après, tous mes frères et sœurs ont un peu arrêté à l'adolescence, et moi j'étais la seule qui a vraiment continué et qui en a fait son métier, quoi.
Et déjà à 15 ans, tu fais tes premières scènes dans des bars lyonnais, tu autoproduis un CD, tu composes aussi de façon autodidacte et tu publies des vidéos sur la chaîne YouTube sur laquelle tu t'amuses depuis que tu as 12 ans. Est-ce que tu savais à ce moment-là, à 15 ans, que tu en ferais un métier?
Non, en fait, c'est ça, c'est qu'à 15 ans, j'avais... un peu le désir secret de devenir musicienne, c'était quelque chose qui m'animait, auquel je pensais un peu tout le temps et j'en rêvais beaucoup, mais c'était pas vraiment réel pour moi, c'était pas très ancré dans le concret. Et donc les premiers concerts que j'ai faits, c'était vraiment, je pense, pour me prouver à moi-même que j'étais capable de jouer devant des gens. Et en fait, je m'imaginais pas vraiment devenir musicienne. Pour moi, c'était un peu la première étape, c'était comme semer une graine pour après voir grossir un projet peut-être, mais j'étais vraiment pas dans un... En fait, c'est que je voulais me professionnaliser, mais j'y croyais pas vraiment. J'étais un peu dans un entre-deux où je me disais, je vais faire des petits concerts pour apprendre à faire de la musique aussi devant des gens et voir ce que ça implique. Mais je m'imaginais pas du tout que ça allait me mener là où j'en suis aujourd'hui, quoi.
Et ensuite, à 17 ans, tu tournes ton premier clip. À 19 ans, tu t'installes à Paris pour te consacrer plus à la musique. Et à 20 ans, tu sors un EP qui est intitulé « En cabale ». À 21 ans, tu sors ton premier album à peu près, sur lequel tu signes seulement quelques chansons. Et à 23 ans, tu sors ton deuxième album, « Les failles ». Et cette fois-ci, tu signes toutes les chansons et on te sent beaucoup plus libre aussi. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux albums?
Ah ben, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que, en fait, j'ai sorti mes albums à 21 et 23 ans, mais... L'album que j'ai sorti à 21 ans, il a été fabriqué plutôt entre mes 17 et mes 20 ans. Et puis, l'album que j'ai sorti à 23 ans, il a été fabriqué entre mes 21 et mes 23 ans. Donc, il y a eu énormément de choses qui se sont passées entre mes 17 ans et mes 23 ans. Puis, je suis passée de l'âge crucial de l'adolescence à l'âge aussi crucial de l'âge adulte. Donc, je pense que j'ai énormément grandi. Je me suis affirmée sur ce que je voulais faire dans la vie, sur mes goûts. J'étais vraiment pas aussi sûre de moi quand j'ai sorti mon premier album que quand j'ai sorti mon deuxième album. Et encore là, quand j'ai sorti mon deuxième album, j'étais pas aussi sûre de moi que je le suis maintenant, un an et demi après. Donc voilà, j'ai l'impression que le début de la vingtaine, en fait, c'est un peu là où on se définit peut-être un peu mieux. Enfin, ça peut être même plus tard chez certaines personnes. Mais en tout cas, moi, ça a été vraiment le moment où je me suis définie et où j'ai compris ce que je voulais faire comme musique et où j'ai compris qui j'étais en tant qu'être humain. Donc ça a été vraiment une période très très intense en termes d'introspection et de découverte de moi-même. Et donc je pense que ça se ressent dans le deuxième album que j'ai entièrement écrit et composé et qui a été un petit peu comme mon premier album officiel finalement.
Et en 2020, Pomme, tu as remporté les Victoires de la musique dans la catégorie Album Révélation et en 2021, à 24 ans, tu es sacrée artiste féminine de l'année toujours aux Victoires de la musique en France où tu as fait une performance vraiment remarquable. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre de recevoir ces deux prix?
La première fois, donc l'année dernière en 2020, c'était donc Révélation Album. C'était une de mes premières télés de toute ma vie. J'étais vraiment pas habituée à passer à la télé. Et en France, c'était, je pense, le plus gros média. Je pense que c'est comme ça au Québec aussi, mais c'est le plus gros vecteur d'information. C'est le média que les gens regardent le plus. Et pour la musique, c'est vrai que c'est un des médias qui a le plus d'impact, la télé. par rapport à la presse écrite ou par rapport à, même par rapport à la radio parfois. Et en fait, du coup, comme c'était une de mes premières télés, j'avais un peu le sentiment de, voilà, de pas comprendre tout ce que je disais, de pas savoir pourquoi j'étais là, d'être un peu perdue. Et j'étais hyper heureuse de recevoir le prix, mais c'était un peu comme un tsunami d'informations. Tandis que cette année, entre l'année dernière et cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de promos. Justement, je suis retournée plein de fois à la télé. Je me suis habituée à ce monde-là que je ne connaissais pas l'année dernière. Et je pense que cette année, j'étais un peu plus dans mon élément. Je me sentais mieux. J'étais moins stressée. Je me sentais plus à ma place cette année. Même si je m'attendais pas non plus à le recevoir cette année, le prix, mais en fait, à chaque fois, j'y vais en me disant que la performance musicale, c'est le plus important pour moi parce que c'est sur ça que j'ai envie que les gens me jugent, ou en tout cas, j'ai envie que l'attention des gens soit portée sur ma musique. Mais c'est vrai que au-delà des prix, je sentais que cette année, j'étais plus à l'aise que l'année dernière et j'étais plus moi-même, je crois, que l'année dernière dans la performance, dans tout, en fait.
Oui, ça commençait fort comme première télé quand même.
Oui. Vraiment, vraiment.
Quand on parle ouvertement et naturellement de son homosexualité et qu'on est connu, crois-tu qu'on devient un peu la porte-étendard de cette réalité?
Je pense qu'en France, oui. Je pense qu'au Québec, c'est vraiment plus simple parce que ça fait des années déjà qu'il y a des artistes LGBT dans les médias, qu'il y a des artistes queer plus médiatisés. Je pense à Ariane Moffat ou à Pierre Lapointe qui, depuis au moins une dizaine, voire une quinzaine d'années, sont dans les médias de masse, quoi. Enfin, les médias que tout le monde regarde. Et donc, je pense que c'est vraiment moins un sujet, même si ça l'est encore évidemment et que voilà, tout n'est pas accepté même au Québec et qu'il y a encore un manque de représentation dans plein de médias. Je pense que la France, on est vraiment en retard là-dessus, ce qui fait qu'il n'y a même pas cette normalité d'être gay ou d'être lesbienne dans les médias. C'est vrai que c'est tout de suite quelque chose qui est perçu comme une sorte de militantisme. Juste le fait d'être gay ou d'être lesbienne en France, c'est presque appelé du militantisme, ce qui est complètement absurde. C'est comme si on dit à quelqu'un t'es noir, t'es militant parce que t'es noir. Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, c'est simplement de voilà, ça devrait même pas être un statement, ça devrait même pas être quelque chose sur lequel on s'arrête dans les grands médias. Malheureusement, en France, c'est encore considéré comme voilà, comme un acte militant de même pas de dire qu'on est lesbienne, mais d'écrire des chansons d'amour avec des filles, d'écrire des chansons d'amour avec des garçons. J'ai l'impression que c'est encore pire avec les filles parce que les femmes sont toujours plus invisibilisées. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus complexe au niveau des lesbiennes par rapport aux gays. C'est toujours cette double discrimination d'être une femme et d'être lesbienne aussi. Donc je pense que ça commence à bouger tranquillement puisque là, il y a de plus en plus d'artistes, voilà, qui justement tiennent ce discours-là de dire, je veux juste faire ma musique et j'ai pas forcément envie qu'on me parle de ma sexualité et je pense que ça va porter ses fruits dans les prochaines années. Mais là, on est vraiment dans la période où c'est stigmatisé dans les médias en espérant que cette stigmatisation serve à quelque chose pour les prochains qui vont arriver et qu'on espère qu'ils n'auront pas à parler de leur sexualité tout le temps ou à se faire parler de leur sexualité quand parfois, voilà, les artistes n'en parlent même pas ouvertement dans les médias, mais simplement écrivent des chansons sur leur vie, quoi.
Et est-ce que tu as été surprise du fait qu'on te parle beaucoup de ça, vu que tu as écrit tes chansons naturellement?
Au début, ça a été compliqué. Alors, surprise, malheureusement, non, parce que je m'y attendais, je m'y suis préparée, surtout avec le deuxième album, parce que je savais que le deuxième album aurait plus d'attention médiatique que le premier. C'est pas très difficile en même temps, parce que le premier n'a pas été vraiment un succès, en tout cas pas dans les objectifs que le label s'était mis. Donc, je m'y étais préparée et malheureusement, je m'y attendais et justement, ça a été quelque chose qui m'a un peu pris la tête. Et je me souviens d'être un peu lassée et un peu frustrée de devoir anticiper ça, alors que n'importe quel artiste hétérosexuel en France n'a pas à penser à cet aspect-là de la promo et d'avoir cette attention particulière autour de sa vie privée, en fait. Donc, je m'y attendais, je n'étais pas surprise et je m'étais un petit peu préparée. Par contre, évidemment, ça m'a frustrée à plein de reprises. Il y a plein d'interviews où j'ai dû après demander à retirer des trucs parce que ça avait été modifié et que c'était pas du tout ce que j'avais raconté. J'ai été plein de fois réduite à mon orientation sexuelle à plusieurs reprises et tout, donc ça a été parfois un peu frustrant, mais par contre je m'y attendais, je savais que ça allait être comme ça. Je commençais déjà même avec le premier album, même si dans mon premier album il y avait plus de chansons qui parlaient d'amour hétérosexuel que de chansons qui parlaient d'amour bisexuel ou lesbien. J'avais déjà eu un aperçu, en fait, avec le premier album, donc je savais que ça allait comme ça, malheureusement.
On va tout de suite écouter ta chanson « On brûlera », qui est tirée de ton premier album, justement, et j'aimerais que tu nous la présentes.
Oui, c'est un peu la première chanson d'amour véritable que j'ai écrite, puisque j'ai connu une première amoureuse à 19 ans, et J'ai écrit donc cette chanson-là à ce moment-là dans un espèce de déchirement intérieur, d'avoir passé toute ma vie à sortir avec des garçons et de me dire oh waouh, je suis tombée amoureuse d'une fille pour la première fois, et ça m'a provoqué voilà un espèce de tsunami intérieur d'homophobie internalisée, d'éducation catholique aussi que j'ai reçue de mes parents. Voilà, donc c'est toute une symbolique qui me pesait à ce moment-là, en tout cas qui aujourd'hui voilà est vraiment derrière moi, mais à ce moment-là, c'est vrai que je sentais que c'était comme si je faisais quelque chose de mal, et donc écrire cette chanson, ça m'a fait beaucoup de bien aussi en ce sens-là, quoi.
On écoute On brûlera de pommes.
On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre.
Nous sommes toujours avec l'auteur-compositrice-interprète, Pomme. Il y avait beaucoup de grandes choses prévues pour toi en 2020, dont la première partie du spectacle de Céline Dion.
Oui.
Tout est tombé à l'eau. Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré pour faire trois versions de ton album Les Failles?
Oui et non, dans le sens où la première réédition était prévue de toute façon, puisqu'en fait, elle comportait tous les titres que j'avais enregistrés en studio pour l'album Les Failles. J'avais pas tout mis sur la première édition de l'album qui était avec la pochette bleue, qui est sortie en novembre 2019, parce que je voulais présenter un projet concis, qui soit digeste et que les gens puissent écouter d'une traite. Et je savais que quelques mois après, je voulais sortir une version avec la totalité des chansons que j'avais enregistrées. Donc ça, c'était prévu. Et puis, on avait profité des victoires en 2020 pour sortir cette réédition. Ensuite, l'édition d'Halloween, oui, c'était un petit peu un moyen pour moi de continuer à faire vivre mon album dans la pandémie, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont annulées, même si j'ai quand même fait partie des artistes privilégiés qui ont encore eu l'attention des médias pendant cette année 2020. J'ai eu la chance de faire quelques concerts à l'automne 2020 aussi dans une fenêtre de lumière où on a pu jouer un petit peu en France. Enfin, j'ai pas été à plaindre, c'est juste que bah, malgré tout, j'ai quand même sorti cet album qui est l'album le plus important à ce jour dans ma vie, 4 mois avant la pandémie. Donc j'ai essayé par différents moyens de faire durer la vie de cet album le plus longtemps possible, comme si il avait vécu dans un monde sans pandémie. Et c'est vrai que voilà, j'ai souvent pensé à qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la pandémie, si j'avais eu la chance de faire les festivals d'été et donc notamment cette première partie de Céline. Mais c'était une première partie de Céline, bon, c'était évidemment un des trucs que j'attendais le plus, mais il y avait aussi plein d'opportunités qui s'offraient à moi et tout, donc je me suis souvent demandé qu'est-ce que ça aurait été. Et puis là, je pense que j'ai un peu fait la paix avec ça, parce que je suis vraiment allée au bout des choses malgré tout. J'ai réussi à faire donc ces rééditions, sortir des nouvelles chansons, jouer quelques concerts malgré tout, présenter mon album en France, en Belgique, au Québec. Donc voilà, après j'essaie de regarder vers la suite, même si honnêtement ça n'a pas été évident de faire le deuil de certains aspects du développement de cet album qui a été quand même un peu étrange quoi.
Est-ce qu'ils sont reportés les spectacles que tu étais supposé faire?
Alors au Québec c'est reporté, donc ça a été reporté d'abord c'est février 2020, ça a été reporté à mai, et là c'est reporté pour la dernière fois à septembre, dans 6 mois.
Okay.
Donc ça c'est cool, je pense qu'on va pouvoir les faire parce que la situation au Québec elle est quand même elle est mieux gérée en fait qu'en France, et donc je pense que vous sortirez plus vite de la pandémie que nous, heureusement pour vous. Donc pour le mois de septembre, je pense que ça va être bon, j'espère en tout cas, et je vais jouer à Québec, Montréal, Toronto, et puis je crois qu'il y a aussi Gatineau, les Trois-Rivières, un truc comme ça dans mon souvenir, enfin, c'est écrit sur le site internet de Bon Sound. Et puis pour la France, malheureusement pour le moment, on est obligé d'annuler parce qu'on a déjà reporté 2-3 fois, parfois 4 fois, et là on commence à annuler parce que moi j'ai des nouvelles chansons déjà. Okay. Et que donc je regarde, enfin mon regard se porte vers un prochain album, et je me dis que voilà, plus le temps avance, plus la solution de booker une tournée plus tard en 2022 et de faire les failles et peut-être un nouvel album en même temps, c'est une solution que j'envisage. Après là, dans les prochains mois, je vais faire évidemment tous les concerts que je vais pouvoir faire, voilà, je vais pas tout annuler, et je ne vais pas annuler des choses qui sont possibles, j'annule uniquement les choses qui s'annulent par le Covid. Donc là, je suis censée recommencer la tournée en France en mai pour l'été jusqu'à septembre, et voilà, je vais faire absolument tous les concerts que je serai en mesure de faire sont safe, mais c'est sûr que quand on regarde un peu la réalité, je ne vais pas pouvoir faire la tournée que j'avais prévu de faire, donc je préfère peut-être la faire dans des meilleures conditions dans beaucoup plus longtemps, mais du coup avec des nouvelles chansons, quoi.
Et par curiosité, ton spectacle en première partie de Céline Dion, c'était où?
C'était au Vieille Charrue, c'est un des plus gros festivals en France, c'est en Bretagne. C'était c'est devant 60 000 personnes, parce que le festival, en gros, au maximum, c'est 60 000 personnes, et ils avaient vendu les 60 000 billets, je ne sais plus, en genre quelques heures. Et puis, donc, ça, c'était pour 2020. Elle a ensuite été rebookée pour 2021, puis elle a reannulé puisque 60 000 personnes pour le mois de juillet, dans quelques mois, ça semble complètement irréel. Mais elle a rebooké des spectacles en Europe en 2022, donc j'espère que je vais finir par le faire, même si j'ai 70 ans quand je fais sa première partie. Mais en tout cas, je sais que si elle revient en France, mon équipe seront sur le coup et ils vont contacter toutes les personnes qu'il faut contacter pour pouvoir faire sa première partie à un moment donné, quoi.
Mais je te le souhaite. Tu as aussi profité du premier confinement pour offrir de nouvelles chansons en anglais qui sont réunies sur le mini-album Quarantine Fond Sessions. Qu'est-ce que tu exprimes différemment en anglais?
Bonne question. En fait, j'écrivais en anglais quand j'étais adolescente parce que ça me permettait d'écrire des chansons dans ma chambre sans que mes parents comprennent trop ce que je racontais. Du coup, je crois que les Quarantine Fond Sessions, elles sont nées du fait que je me suis retrouvée en confinement avec mes parents et que donc je me suis retrouvée de nouveau dans cette position un petit peu d'adolescente 10 ans plus tard dans la maison de ma famille, là où j'ai grandi, là où j'ai écrit mes premières chansons et tout, avec cette pudeur et ce manque d'intimité. Finalement, quand on vit en famille, on n'a pas autant d'intimité que quand on est un adulte et qu'on part de chez soi et puis qu'on se met à être indépendant. Et du coup, naturellement, il y a un mécanisme qui s'est activé et je me suis remise à écrire en anglais.
On va en écouter un extrait. J'ai choisi « That's OK ».
Oui.
«
Nous sommes toujours avec Pomme, auteure, compositrice, interprète. Tu as écrit ton album Les Failles en 2 semaines et en 5 jours, tout était enregistré. C'est vraiment impressionnant. Dans quel état d'esprit étais-tu?
En fait, j'étais un peu en réaction, je pense, au premier album qui ne me ressemblait pas tant. Et donc, j'avais un petit peu l'urgence de composer, d'écrire et de sortir un projet qui me ressemblait vraiment. Et du coup, bah, comme j'avais cette urgence-là, effectivement, c'est allé très, très vite. Et je vois là, dans le présent, que... Là, j'essaie d'écrire mon troisième album et je suis pas du tout dans la même urgence parce que mon deuxième album, il me ressemble tellement que j'ai pas cette frustration que j'avais en sortant du premier album et qui m'a poussée finalement à écrire tellement rapidement et à écrire des chansons, en fait, c'est la première fois de ma vie quand j'ai écrit Les Failles que j'écrivais des choses qui me ressemblaient et que j'ai pu les sortir exactement comme je les avais imaginées. Donc, ce sentiment-là, je le retrouve pas puisque là, j'ai eu la chance de vivre ça. Donc, ça s'explique par ça. Là, c'est vrai que là, quand je vois mon processus de création, c'est un peu plus long. C'est pas autant urgent. Donc, après, je suis assez rapide quand même et je suis assez productive. Et quand j'ai un objectif, j'ai une facilité à l'atteindre quand j'ai besoin de l'atteindre. Donc voilà, ça va pas prendre 6 ans pour écrire un troisième album. Mais en tout cas, je pense que c'était unique et que c'était très propre à ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là, qui était cette espèce de transition entre le premier album qui me ressemblait pas et la suite que je voyais. Et je me disais, en fait, c'était un peu de la survie aussi. Je me disais, soit je fais la musique qui me ressemble profondément et je dis la vérité de ce qu'il y a en moi, soit ça sert à rien que je fasse de la musique parce que ça m'avait rendue malheureuse de défendre un album qui me ressemblait pas, quoi.
Et est-ce que ton premier album était enregistré en studio?
Oui, j'ai fait en studio avec un ami à moi qui s'appelle Benjamin Wax, okay. Qui a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, mais en fait, ça n'a pas été tellement... Le problème, c'était pas les personnes avec qui je l'ai fait en studio, c'était plus le label, qui est toujours mon label aujourd'hui, mais sur le premier album, ça a été très compliqué de d'imposer mes choix. Du coup, au bout d'un moment, je savais plus trop ce que je voulais parce que y avait tellement de gens qui me donnaient leur avis que je me suis retrouvée un peu à être perdue et à partir un peu dans tous les sens. Et c'était vraiment un contexte... J'étais plus jeune, il y avait beaucoup trop de gens qui m'entouraient. Quand j'ai commencé mon deuxième album, j'ai minimaliser au maximum les intervenants artistiques de mon projet. Enfin, j'ai fait un grand ménage, quoi.
On a tous et toutes des failles. Après, il y a ceux et celles qui les reconnaissent et qui en font une force, mais il y a ceux et celles qui veulent les fuir. Est-ce que ce sujet s'est imposé à toi ou est-ce que tu avais déjà en tête d'en parler?
En fait, c'est assez drôle parce que j'écrivais des chansons sur les thèmes, je les avais déjà un peu en tête. Je savais que je voulais écrire sur l'anxiété, sur la peur de la mort et tout ça. Et puis, en faisant la liste des chansons que j'avais à la fin, que je me suis rendu compte que, en fait, elles pouvaient toutes se regrouper dans ce terme-là, les failles qui leur ressemblaient à toutes. Il y avait toujours question de failles, de trucs qui fonctionnent pas, de comment expliquer ça autrement. Je trouve que les failles, il y a pas vraiment de synonyme au mot faille. C'est vraiment, les fêlures, quoi. Et ça parlait juste de ça. Toutes les chansons parlaient un peu de ça. D'une manière ou d'une autre, donc c'était naturel pour moi, mais j'avais pas décidé que j'allais parler des failles, c'est que j'ai écrit les chansons sur des thèmes, et puis au final, tous les thèmes se regroupaient dans ce grand thème-là, quoi.
Et le dessin de la pochette de ton album est magnifique, et il prend vie aussi dans le vidéoclip de ta chanson Grandiose, que j'ai adoré.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Le dessin et le clip ont été réalisés par Ambivalently Yours, qui est une artiste canadienne anglophone.
Ok.
En fait, je l'ai trouvée sur Instagram, comme beaucoup de liens se font maintenant sur Instagram. J'ai trouvé dans ces dessins quelque chose de similaire aux recherches que je faisais dans ma musique à ce moment-là, justement, de chercher la faille, de chercher ce qui fonctionne pas, plutôt que de s'attarder sur ce qui marche déjà, ce qui fonctionne déjà, bah, de mettre de côté ce qui fonctionne et ce qui est beau selon la société pour aller voir ce qui fonctionne pas et ce qui est laid, entre guillemets. Et en fait, j'ai vu qu'elle était exactement dans le même processus. Elle dessinait les émotions. Donc elle, depuis des années, elle demandait aux gens, donnez-moi une émotion, je vais de la dessiner pour vous. Bah, en fait, j'ai vu ça, je me suis dit, mais je fais exactement la même chose, le même processus, mais via le dessin. Et ça m'a fascinée, j'ai trouvé ça super beau. Je lui ai écrit, je lui ai demandé de faire la pochette. On a fait plein d'essais différents au début. Je voulais qu'il y ait une photo de moi et aussi des dessins. Et puis finalement, ce dessin, en fait, de moi, mais dans lequel tout le monde peut s'identifier, je trouvais que c'était la manière la plus large et la plus juste de présenter cet album. J'étais aussi assez fière qu'il n'y ait pas ma photo sur la pochette. C'était comme une coupure aussi avec mon image d'avant qui était très lisse et où, voilà, il fallait absolument qu'on voit mon visage sur le premier album. Et en fait, là, j'avais plus du tout envie de ça. Enfin, j'ai jamais eu envie de ça, mais j'ai imposé plus tard ça, quoi. Et puis, bah, en fait, quand il y a eu le confinement, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un clip en animation. Et pendant le premier confinement, on s'est dit, bah, c'est peut-être le moment, on a plus de temps, on peut pas faire de clip de toute façon autrement. Donc, entre mars et mai, donc vraiment les 3 mois du premier confinement, on a réalisé ce clip ensemble. Elle l'a fait 100% seule, donc ça lui a pris 3 mois. Et moi, j'avais tout écrit, on a tout fait ensemble. Et voilà, donc j'étais trop contente. On est vraiment allé au bout des choses ensemble. On a fait énormément de projets ensemble. On a fait un recueil de poèmes, on a fait des patchs, on a fait des affiches, on a fait ce clip et on a fait plein de choses ensemble. Et je pense qu'on pourrait encore faire d'autres choses ensemble, mais c'est vrai qu'on a vraiment, en un an et demi, on a fait énormément de... On a énormément collaboré et c'était hyper enrichissant.
Puis le résultat est magnifique aussi. On va l'écouter, ta chanson Grandiose. Je pense qu'elle a créé un peu de confusion en France, cette chanson-là, à cause de la PMA et tout ça.
Ouais.
Qu'est-ce que tu voulais dire au départ dans cette chanson-là?
En fait, c'est fou parce que moi, c'est une des premières chansons que j'ai écrites après avoir sorti mon premier album. Donc en 2017, j'ai écrit cette chanson, elle a plus de 3 ans maintenant. Et c'était bien avant les débats sur la PMA. Et en fait, moi, je venais de me séparer. Je venais de vivre ma première rupture amoureuse dans ma première relation avec une fille. Donc, j'avais vécu un an et demi de réalisation. Justement, c'était pas très longtemps après avoir écrit « On brûlera », en fait. C'était quelques mois après, peut-être un an après maximum. Et c'était un peu la suite de « On brûlera », dans le sens où, voilà, « On brûlera », c'était cette... C'est ce constat que j'avais toute cette morale catholique qui me pesait. Et puis, en fait, Grandiose, c'était la suite de, logique de ça. Pour moi, c'était de me poser la question de est-ce que j'avais envie d'avoir un enfant parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir envie d'avoir un enfant, mais aussi parce que je l'imaginais dans un couple hétérosexuel et parce que c'était la seule représentation que j'avais. Donc, c'était comme une chanson pour moi sur la maternité et la normalité. Au-delà du genre, au-delà de l'orientation sexuelle, ça pouvait aussi questionner sur le fait d'être une mère célibataire. Enfin, pour moi, c'était vraiment plus global et plus poétique et pas du tout aussi précis que ce que les médias français après ont affilié à cette chanson. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est sortie du coup avec l'album en novembre 2019, donc 2 ans après que j'ai écrite, et c'était pile pendant le débat sur la PMA en France.
Aïe, aïe, aïe.
Et donc, bah, évidemment, à ce moment-là, tout le monde s'est mis à me parler de ça. Et en fait, moi, j'avais même pas eu le temps de suivre le débat que tout le monde me disait, voilà, t'as écrit une chanson pour la PMA et tout. Et je disais, bah non, pas du tout. Moi, j'ai juste écrit une chanson parce que je me suis séparée et que je me suis rendu compte que mon désir d'enfant, il était beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Et que dans la réalité de ma vie, c'est pas aussi simple que ça. Donc, cette chanson, de base, elle parle d'un truc super intime de rapport à la maternité, de rapport à la normalité et pas tellement de la PMA, finalement.
Alors, on va l'écouter. On écoute Grandiose de Pomme.
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurai sûrement du terre parfois, l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose. I'm toi, t'auras une vie grandiose, grandiose. La vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée. Une vie comme ça n'existe pas. Pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis les cloches assourdissantes, le gris de l'église de fond rose, je veux.
Nous sommes de retour avec la chanteuse Pomme. Dans ton idéal, est-ce que tu aimerais avoir des enfants et te marier?
Bah, je me pose la question. Disons que avoir des enfants, je trouve que c'est merveilleux. Après, il y a quand même eu... En fait, il y a plusieurs choses. Moi, je suis issue d'une génération où on a quand même pas mal de désillusions sur l'environnement, sur la politique, sur les discriminations. C'est comme si... En fait, avant, on n'était pas, ça existait déjà. La planète était déjà en train d'être détruite. Les politiques étaient déjà, pour la plupart, pas forcément des bonnes personnes. Et puis, les discriminations existaient déjà. Mais je crois que je fais partie de la génération qui a commencé à ouvrir les yeux vraiment là-dessus. Et donc, je trouve ça difficile d'avoir toujours un désir d'enfant dans cette société et de se dire que voilà, qu'on rajoute finalement quelque chose. On crée un humain qui arrive dans ce monde-là, qui est déjà surpeuplé, qui est déjà en bouillonnement permanent. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai toujours envie de... Enfin, évidemment, je pourrais ne plus avoir envie parce que c'est vraiment pas une obligation, mais je ressens toujours ce rapport à la maternité qui est assez fort. J'ai besoin dans ma vie de me dire que d'une manière ou d'une autre, je serai mère, mais c'est plus vraiment lié à la biologie ou au fait d'être enceinte. Je me dis que je pourrais très bien adopter ou que je pourrais très bien être au contact d'enfants et avoir un rapport maternel avec des enfants, que ce soit les miens ou pas, quoi. Donc, c'est vraiment une réflexion que j'ai au quotidien. Encore à ce jour, c'est beaucoup moins simple que de me dire bah, « je veux un enfant, j'aurai un enfant ». C'est plus du tout ça ma réalité, donc c'est quelque chose auquel je pense souvent. Parfois, je me réveille le matin, je me dis « ça n'a aucun sens d'avoir un enfant dans ce monde », et puis le lendemain, je me dis « ouais, mais en même temps, ça n'a pas de sens de ne pas en avoir non plus ». Enfin, voilà, je suis un peu dans un entre-deux permanent, quoi.
Tu as encore le temps d'y penser aussi.
Oui.
Puis j'ai vu que dans le cadre des Francofolies, tu avais fait des ateliers d'écriture avec des enfants.
Oui.
Est-ce que c'était à La Rochelle ou c'était ici à Montréal?
Oui, c'était à La Rochelle, mais j'en ai déjà fait au Québec, à Carleton.
OK.
Ouais, et en fait, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. J'ai toujours, parce que avant de devenir musicienne, mon but, c'était de devenir professeur. Et donc, j'ai toujours été animatrice dans des colonies de vacances. J'ai toujours voulu garder le contact avec les enfants, justement, en parlant de maternité et tout. Et donc, j'ai réussi à, depuis quelques années, j'ai jamais arrêté, en fait, de faire des projets avec des enfants. Et je suis hyper contente de ça. J'ai réussi même en 2020 à faire des ateliers sur Zoom d'écriture de poèmes, même pendant la Covid et tout. Donc, c'est juste, pour moi, le meilleur moyen d'allier en fait ma passion pour les enfants avec ma passion pour la musique, quoi.
Et t'as dit que t'as fait ton éducation féministe au Québec. Comment ça s'est fait?
En fait, je suis arrivée ici à 19 ans la première fois. Donc, j'étais jeune et encore plus jeune qu'aujourd'hui, donc adolescente, quoi. Enfin, fin d'adolescence. Donc, j'avais pas encore des idées arrêtées sur les choses. Et le fait de venir très jeune ici et de venir régulièrement, je pense que ça m'a ouvert l'esprit. Mais en fait, c'est comme, je pense, voyager dans n'importe quel pays qui a pas exactement la même culture, parce que là c'est particulier parce que le Québec ça ressemble un peu à la France, mais en même temps ça ressemble aussi aux États-Unis, et puis ça ressemble au Québec aussi, tout simplement. Et c'était assez fou d'arriver ici, de pouvoir parler dans ma langue et en même temps de voir que c'est une société qui était plus évoluée sur les questions sociales, la plupart du temps, en tout cas sur les questions de prise en charge des discriminations. Donc ouais, je pense que ça m'a changé et je pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui si j'étais pas venue au Québec aussi jeune.
Et en février 2021, suite au mouvement Music Too, tu as écrit une lettre ouverte bien sentie sur Mediapart dans laquelle tu définis ton arrivée dans l'industrie de la musique comme traumatisante. Tu en as aussi parlé en recevant ton prix d'artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique, où tu as mentionné souhaiter voir une industrie musicale plus safe pour les femmes. Mm-hmm. Comment tu réussis à concilier l'aspect militant de ta prise de position avec le reste de ta carrière?
C'est une très bonne question que je me pose encore à moi-même, mais c'est vrai que j'essaie toujours de garder la musique au centre. La musique, c'est ça, c'est toujours le plus important pour moi. Et voilà, dans ma vie aujourd'hui, j'ai pas l'envie ni l'énergie d'être activiste 100% du temps. Par contre, j'aime bien et je trouve ça essentiel de faire de la place dans les moments où c'est utile au militantisme et à l'activisme. Et il y a toujours dans mon emploi du temps de la place pour ça. Ça ne veut pas dire que c'est la chose principale que je fais dans ma semaine, mais c'est toujours quelque chose que je souhaite faire et c'est une chose à laquelle je souhaite laisser de la place dans ma vie. Mais c'est une place qui, je dirais, est vraiment secondaire par rapport à la musique, quoi. Et ça doit le rester pour moi dans ma vie. Après, peut-être que quand je vais prendre ma retraite, j'aurai envie de faire l'inverse. Et puis de faire que du militantisme. Mais pour le moment, j'ai vraiment besoin de faire de la musique plus que tout le reste, quoi.
Mais c'est tout en ton honneur aussi de te servir de cette reconnaissance-là pour dénoncer et parler des choses qui tiennent à cœur.
Bah oui, bah en tout cas, j'arrive à... Je suis heureuse comme ça et je sais que ça me prend pas trop d'énergie et que ça me... Tu sais, quand j'ai sorti la lettre, j'ai lu aucun commentaire parce que, en fait... Quand je fais un statement ou quand je fais une sortie publique qui peut potentiellement faire du bruit et qui peut potentiellement être mal interprétée ou être critiquée, j'ai déjà fait le travail en moi-même de savoir de quoi je parle et de savoir que c'est mon point de vue, dans le sens où je sortirai jamais une lettre dont je suis pas sûre et où les informations dans la lettre sont inexactes. Donc je ressens pas le besoin d'aller regarder les commentaires et du coup je me sens pas attaquée parce que en fait ça m'intéresse pas d'avoir l'avis des gens sur mon expérience. C'est mon expérience et je sais que en fait ça me regarde juste moi, dans le sens où la manière dont je l'ai ressenti, bah, c'est moi qui suis le personnage principal de mon histoire. Donc, en fait, comme je ne vais pas voir les commentaires sur ces sujets-là, bien sûr que je vais voir les commentaires sur d'autres sujets où j'ai besoin d'avoir de l'information, mais je n'ai pas besoin d'avoir de l'information sur comment les gens perçoivent mon histoire, quoi.
Et depuis les Victoires de la musique, tu es beaucoup plus médiatisée aussi. Comment tu gères ça, la popularité et tout ce qui vient avec?
Je pense que le fait d'habiter entre la France et le Québec, ça m'aide beaucoup à être équilibrée parce que finalement, je ne fais pas tant d'allers-retours que ça. Je reste souvent très longtemps dans l'un ou dans l'autre. Et du coup, c'est comme si au Québec, il y a vraiment moins de gens qui m'identifient aussi. Donc, ma vie au Québec, ça ressemble vraiment plus à la vie d'une citoyenne qui fait sa vie et qui n'est pas une personne publique. Donc, je pense que c'est ça qui me tient finalement dans un équilibre de santé mentale, quoi, de bonne santé mentale.
Comment as-tu réussi à faire de ton anxiété une force?
C'est une bonne question. Moi, j'ai la chance d'avoir ce rapport avec la musique qui fait que je peux mettre mon anxiété dans mon art. Donc je pense que mon anxiété, ça devient une force parce que j'arrive à la transformer en quelque chose d'artistique. Mais c'est vrai que quand on ne fait pas forcément de musique ou d'art, c'est pas évident de s'en servir à bon escient, quoi.
Et peux-tu nous présenter ta chanson « Anxiété » ?
Bah, c'est une chanson qui parle d'anxiété, où en fait je me mets à la place du sentiment de l'anxiété pour parler à la première personne. Donc la chanson, elle est écrite du point de vue du sentiment de l'anxiété. Donc c'est un peu particulier, mais c'est comme ça que j'ai réussi à en parler le mieux, en fait, de parler du ressenti, de parler de comment mon corps réagit à l'anxiété et de parler de comment je me sens quand je suis anxieuse plutôt que d'essayer de l'expliquer ou de... En fait, c'est vraiment une chanson qui parle de sensations, quoi.
On l'écoute.
Je suis...
Nous sommes de retour avec l'auteure-compositrice-interprète Pomme. Tu es venue te réfugier au Québec pour écrire des nouvelles chansons. Et qu'est-ce qui t'inspire ici?
Je pense que tout ce dont on a parlé avant de la liberté d'expression, de sentir plus en sécurité ici, des paysages avec beaucoup d'espace, je pense que tout ça en fait, avant de m'inspirer, ça m'apaise et ça me met dans un état propice à la création aussi, puisque je me sens bien. Après, en France, j'arrive aussi à... En fait, je pense que j'écris plus de chansons en France qu'au Québec parce que l'état d'apaisement n'est pas forcément l'état dans lequel je suis le plus inspirée. Souvent, je suis plus inspirée quand je suis angoissée ou quand j'ai de la peine que quand je suis 100% apaisée. Mais l'apaisement que m'apporte le Québec est essentiel à ma santé mentale, en tout cas.
Et tu as performé à l'émission Star Academy au Québec le 7 mars dernier. Quand on regarde ta carrière, le succès est arrivé de façon progressive dans ta vie. Est-ce que tu penses que tu aurais été une bonne candidate pour une émission comme Star Academy?
Non, je pense que j'aurais été une terrible candidate parce que j'ai pas de... Star Academy, c'est quand même très axé sur la voix, même s'ils travaillent aussi la danse et qu'ils travaillent aussi l'identité artistique et tout. Ils ont tous, ils et elles ont tous des voix fortes et moi, j'ai pas du tout une voix de chanteuse de variété dans le sens où j'ai pas une voix qui porte vraiment. J'ai une voix qui est tellement pas puissante que je pense que j'aurais été éliminée à la première étape, quoi.
OK, je voyais plus ma question comme le fait de devenir une star rapidement. J'ai l'impression que t'as des bases solides vu que ça fait longtemps que tu fais ça, mais en même temps, ta première télé, c'était les Victoires.
Ouais, c'est ça, ça a été vraiment, vraiment progressif. Donc, c'est vrai que, en fait, j'ai des bases solides en expérience, j'ai envie de dire, mais pas forcément. Ma notoriété, elle est quand même relativement nouvelle, quoi. Donc, c'est particulier parce que j'ai fait plein de concerts, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des centaines, peut-être même des milliers de concerts maintenant dans les 10 dernières années. Mais la médiatisation, qui est très différente de l'expérience finalement, c'est quand même assez nouveau pour moi.
Tu as fait quelques collaborations avec des artistes du Québec, dont la chanson Sorcière, qui se retrouve sur ton album, que tu chantes avec Claude Pelgag. Tu as aussi collaboré avec Pierre Lapointe, Safia Nolin, Philémon Simon et les Sœurs Boulay. Est-ce qu'il y en a d'autres avec qui tu aimerais collaborer?
Céline Dion, évidemment, ce serait mon rêve. J'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes-là rapidement dans mon processus d'artiste.
Et j'aime beaucoup ta chanson qu'on va écouter, que tu as titrée « Les cours d'eau », qu'on retrouve sur l'album « Les failles cachées ». Est-ce que tu veux nous la présenter?
J'aime l'appeler la seule chanson vraiment joyeuse de mon album parce qu'elle parle d'être patient et de laisser la vie faire son travail, en fait. C'est vraiment ça, ce truc-là. Quand les gens nous disent « il n'y a que le temps qui guérira ta situation », souvent, cette phrase-là, elle est un peu agaçante, mais cette chanson-là, elle parle vraiment de ça. Et « Les cours d'eau », c'est de laisser couler l'eau. Nous, on a une expression en France qui dit « laisser couler l'eau sous les ponts » aussi, pour dire « laisser le temps faire son travail », quoi. «
faille de ces jours où l'amour s'avance.
Nous sommes de retour avec l'auteur-compositrice-interprète Pomme. En 2018, tu t'es fait intimider sur les réseaux sociaux pour une vidéo de 15 secondes qui, après ma barre, n'avait rien de choquant. Comment as-tu vécu cette cyber-intimidation et quelle place occupent les réseaux sociaux aujourd'hui dans ta vie?
À ce moment-là, j'étais vraiment pas assez sûre de moi et j'étais vraiment pas, je me sentais vraiment pas assez en sécurité dans ma vie pour le vivre autrement que mal. Donc, je l'avais vraiment mal vécu. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai un rapport vraiment plus sain avec les réseaux où, en fait, j'ai une capacité à supprimer l'application Instagram ou supprimer les applications qui m'angoissent au moment où ça m'angoisse. Genre, je sais que je déteste perdre du temps sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, dans mon présent, à partir de la seconde ou la minute où je vois que Instagram m'angoisse, je le supprime de mon téléphone, en fait.
Tu as participé à une chanson qui réunissait plusieurs artistes pour Urgence homophobie et aussi à la chanson Debout les femmes qui réunissait 39 femmes. Qu'est-ce que ce genre de performance t'apporte comme artiste?
C'est beaucoup de belles rencontres quand je participe à ces projets-là. C'est des projets collectifs, donc je rencontre des gens. Justement, je parlais de consacrer du temps au militantisme et de faire de la place pour tout ça dans ma vie. C'est typiquement ce genre de projet-là où j'arrive à combiner musique et finalement des choses qui m'instruisent et des rencontres qui m'enrichissent. C'est des projets que j'aime beaucoup faire.
Debout les femmes, c'était vraiment une belle version de cette chanson-là.
Oui, c'était vraiment cool comme projet.
J'ai entendu une entrevue où tu étais sur la même émission que Billie Eilish, où elle mentionne qu'elle t'aime beaucoup, qu'elle t'adore même. Elle mentionne « Text me ». Est-ce que tu as donné suite à cette invitation et est-ce que tu aimerais collaborer avec elle?
En fait, c'est un peu la seule personne avec qui j'aimerais collaborer en ce moment dans ma vie.
Okay.
Mais j'ai pas son numéro, donc je sais pas pourquoi elle a dit ça, parce que je sais pas comment je peux lui écrire si j'ai pas son numéro, mais...
Mais l'animateur te l'a pas donné?
Non, je pense qu'il l'avait pas vraiment, il disait qu'il allait arranger ça, mais c'est personne à un numéro à Billie Eilish, vraiment, dans le sens où je pense que c'est quand même précieux d'avoir son numéro, et c'est quand même rare. Et non, j'ai pas donné suite, mais avant la pandémie, j'allais la voir en concert dès qu'elle passait en France, et à chaque fois, je passais toujours un moment avec elle, ça fait que je l'ai rencontrée vraiment avant que ça soit une superstar.
Okay.
C'est que mon rêve, c'est de pouvoir la revoir en vrai, parce que c'est toujours plus cool d'initier des choses en vrai. C'est sûr que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut s'écrire et c'est simple, mais au vu de la quantité de messages qu'elle reçoit, j'avoue que je trouverais ça plus cool de pouvoir la recroiser dans la vraie vie, quoi.
Ouais. Et déjà, tu as repris sa chanson « Bad Guy » à l'auto-harpe en français. Est-ce que c'est toi qui as signé l'adaptation francophone de la chanson?
Oui, c'est un exercice que j'adore faire. J'ai adapté la chanson en français.
OK. Et j'ai lu que tu aimais beaucoup Dolly Parton et ta chanson Pauline. Est-ce que c'est une chanson qui t'a été inspirée par Jolene?
Alors, c'est pas moi qui ai écrit Pauline. Okay. C'est un auteur qui s'appelle Jean Felzin. Et en effet, je pense qu'il s'est très fortement inspiré de Dolly Parton et il savait que je l'aimais beaucoup. Donc oui.
Et j'ai remarqué aussi que tu as souvent des petits instruments originaux lors de tes performances qui se traînent bien partout. J'ai l'impression que ça fait partie de la grande liberté que je perçois chez toi. Est-ce que d'apprendre un nouvel instrument est quelque chose de simple pour toi?
J'ai eu ma période où j'apprenais tout le temps des nouveaux instruments. Je pense maintenant que je suis plus dans un truc où j'essaie de me concentrer sur ce que je sais déjà et de m'améliorer dans les compétences que je sais déjà. Mais quand j'avais genre 18-19 ans, je voulais vraiment apprendre le plus d'instruments possible. Maintenant, c'est un peu moins le cas.
Et est-ce que tu as mis le violoncelle de côté?
Oui, complètement. Ça fait des années que j'en joue plus.
OK. Je suis persuadée qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Pour notre plus grand bonheur, je trouve que tu as une bouille de comédienne. Est-ce que tu as déjà pensé jouer au cinéma?
Un petit peu. Récemment, je me suis dit que j'avais bien envie d'expérimenter, donc à suivre.
On va se laisser avec la chanson « Soleil, soleil ». Est-ce qu'elle a été écrite au Québec, cette chanson?
Oui, complètement. Elle a été écrite dans un chalet à Mandeville.
Super. Alors, ça a été un grand plaisir de te recevoir, de te découvrir aussi un peu plus. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Au plaisir.
Merci beaucoup.
Merci. Bye bye.
Bye.
1, 2, 3.
Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines, le soleil. Jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à 3 et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil. Prochaine fois que vient la neige et le fracas, on ne va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera, on pourra tous partir, on pourra tous partir.
C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup à notre invitée, la chanteuse Pomme, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes web. On va écouter sa chanson tirée de son album Les failles cachées qui s'appelle Vide. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt.
Bien attiré par le vide, par les grands bassins. Elle disparaît de profil à l'ombre d'un rien. Elle n'existe pas très bien. Le silence est difficile, le poids de ses seins. Quand le corps est si docile à l'ombre d'un rien, elle n'existe pas très bien. Un pied sur le fil, dans le noir, elle attend pour toucher sa cible au hasard. résonne un souvenir en coup sur la peau. Bien attirée par le pire, jusqu'au fond des eaux, elle n'existe pas très bien. En creusant dans les limites, elle réduit l'écho qui la suivait parasite, jusqu'au fond des eaux, elle n'existe pas très bien. Petit trou dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies.
To CKUT. The following is a previously broadcast program. Stay tuned.